Du cinéma muet, mardi catalogue des obsessions, mercredi sexe et amour, ce soir son et images, technique chez Alfred Hitchcock.
How do you do? I'm Alfred Hitchcock.
I see humor in everything.
Last night, I dreamt I went to Mandalay again.
Suspense. J'aime le suspense.
Mélanie a le corps déchiqueté par les becs des mouettes dans les oiseaux. Bruno est broyé par le manège de l'inconnu du Nord Express. Le couple de paysans cubains est torturé à mort dans l'étau. Mais rien ne vaut le couteau quand l'assassin et la victime ne sont pas du même sexe. Le meurtrier de fenêtre sur cour a découpé sa femme en morceaux et l'a répartie dans des valises. Le tueur du crime était presque parfait, reçoit une paire de ciseaux dans le dos avant de tomber à la renverse. Une femme est poignardée dans l'appartement du héros des 39 marches et Verloc est tué à coups de couteau par sa femme au cours du repas dans Secret Agent. Pas de stylisation de la mort chez Hitchcock, mais une longue pénétration de la lame dans les chairs permettant à la victime de réaliser sa mort et à l'assassin de savourer son acte. Comme le dit si bien François Truffaut, Hitchcock filme les scènes d'amour comme des scènes de meurtre et les scènes de meurtre comme des scènes d'amour. Éclaboussures, éjaculations, râles, perte de sang. Dans le cinéma d'Hitchcock, décidément plus sexuel que sensuel, faire l'amour et mourir ne font qu'un. Ce soir, les techniques hitchcockiennes, son et images, Pascal Bonitzer.
Ce qui caractérise Hitchcock, c'est effectivement un très grand souci de l'image, enfin ce qu'il appelle l'imagerie, qui est évidemment absolument coextensive de la montée du suspense, enfin de l'émotion du spectateur. Bon, Hitchcock, je crois, aime à dire qu'il ne fait pas de la direction d'acteur, mais de la direction de spectateur. C'est ce qu'il a dit en particulier à propos de Psychose. C'est-à-dire qu'il manipule les émotions des spectateurs. Pour ça, ça implique effectivement une grande science des rapports entre les plans. Donc une importance particulière donnée au gros plan et en tout cas au point de vue sur les détails. Sur les détails qui soit font peur, soit inquiètent, soit intriguent. Et je crois que toute l'organisation de l'image chez Hitchcock est liée à la manipulation de ces détails, de ces éléments bizarres, paradoxaux, inquiétants, angoissants, terrifiants, horrifiants, enfin au choix, enfin et peut-être dans cette progression qui sont liés évidemment toujours à l'enquête investigatrice d'un personnage, à son intérêt souvent voyeurique, enfin en tout cas comme c'est le cas dans Fenêtre sur cour, on l'a dit et redit, on l'a peut-être même un peu trop dit parce que ça va trop de soi, caractère, la position de voyeur du personnage principal dans Fenêtre sur cour est évidemment analogue de la position supposée de voyeur du spectateur, et donc c'est en ça, si on veut que la direction d'acteur et que la mise en scène chez Hitchcock est quelque chose comme une direction de spectateur.
Odette Ferry.
Je me souviens que la première fois que je l'ai présenté à la presse française, c'était à la suite d'une projection privée qu'on avait faite à Paramount, puisqu'à ce moment-là, j'étais chef de publicité à Paramount, de Fenêtre sur cour. Et à ce moment-là, tout le monde a été absolument enthousiasmé par le film. Il y avait entre autres André Lang, qui à ce moment-là écrivait pour François. Il y avait naturellement Truffaut, il y avait Chabrol. Tout le monde a été emballé par le film, qui a d'ailleurs très très bien marché.
I just want to find out what's the matter with the salesman's wife, that's all. Does that make me sound like a madman?
What makes you think there's something the matter with
her? A lot of things. She's an invalid. She demands constant care. Yet neither the husband or anybody else has been in to see her all day. Why?
Jean Douché.
Il y a un moment lorsque l'homme steward est suspendu à la fenêtre, là, donc il risque de tomber. Il y a l'assassin qui est au-dessus de lui. Bon, il y a son ami policier qui est dans la cour. Et brutalement, la caméra d'ailleurs quitte l'appartement pour passer. C'est la première fois que la caméra passe dans la cour. Et donc, on voit un plan du policier qui attrape un revolver que lui jette. Quelqu'un dans la cour, donc la caméra, lui est en grosse amorce, c'est-à-dire que vraiment son dos occupe une place importante dans l'écran, et on voit le type qui court et qui lance le revolver, et immédiatement vous retrouvez la même amorce du policier. Mais au lieu de regarder maintenant la caméra, au lieu de regarder par terre, elle regarde l'appartement, et on voit le policier viser l'appartement, donc viser le criminel avec son revolver. C'est-à-dire que il vous a contracté un plan où il a fait une plongée et une contre-plongée, avec l'amorce qui reste exactement identique dans le cadre, et vous n'avez pas le temps de voir le changement de plan. Donc ça vous fait une contraction et une économie pour une économie de temps, de resserrement de temps pour l'action, qui est fabuleuse. C'est fantastique. Vous savez. Et ça, c'est une petite idée comme ça qui passe, personne ne la remarque. Or, ça, c'est vraiment une idée de très grand metteur en scène. Parce que il faut savoir le faire, ça. Et dans le cinéma d'action, c'est un des plans de contraction le plus étonnant que j'ai vu. Parce que il est évident que vous pouvez le faire au montage, mais vous pouvez le faire au montage uniquement que parce que ça avait été prévu à la prise de vue. Hein. Il faut vraiment que l'amorce soit exactement la même.
Document TF1, émission Étoile Étoile, interview de James Stewart.
Fascinating story. The story itself with so little movement.
L'histoire elle-même est tellement statique.
Broken leg and wheel who doesn't move at all.
Là, on a quelqu'un qui a une jambe cassée, qui ne bouge pas du tout, qui prend des photos à travers une cour d'immeuble. Tout est limité à un décor unique. Et pour animer tout cela, comme il l'a fait, c'est, je crois, toute la magie de Hitchcock. Tout à coup, il est venu me voir et il m'a dit, Jim, parce qu'il m'appelait toujours Jim, qu'en penses-tu? Et si tu te cassais ta deuxième jambe?
Lisa! Doyle!
Regarde dans cet appartement!
There's another...
C'était une autre invention de Hitchcock. C'était la première fois que je voyais faire cela. Je ne tombais pas du tout.
Oublie-toi, Mathieu.
En fait, j'étais agrippé au rebord de la fenêtre, mais j'étais agenouillé sur du velours noir. L'objectif de la caméra était pointé sur moi, elle était accrochée au plafond par une corde et une poulie. Et il y avait quatre hommes qui tenaient la caméra. Dès que la caméra a commencé à tourner, j'ai lâché le rebord. Ils ont tiré la caméra de 5 mètres et cela a donné l'illusion que je tombais de 5 mètres. Et un tournage de Hitchcock, c'était un tournage avec beaucoup de sérénité. Tout se passait bien. Et je crois que quand il venait tourner un film, il était mieux préparé que n'importe quel autre metteur en scène. Il avait l'habitude de passer quelquefois 3, 4, 5 mois avec son scénariste à fignoler son scénario jusqu'au moindre détail pour qu'il soit exactement ce qu'il voulait. Puis ensuite, il oubliait complètement le scénario parce qu'il le gardait tout en tête. Et c'était un peu comme John Ford, d'ailleurs. Il lui ressemblait parce que c'était aussi un homme d'image, comme Ford. Il ne s'intéressait pas tellement à la parole. Il n'aimait pas que le texte devienne l'essentiel.
François Truffaut.
Il pensait que c'était pas, on n'avait pas besoin de grande littérature pour faire un film, qu'on avait besoin simplement d'une bonne histoire solide, comportant une progression, comportant un personnage attachant à qui il arrive des choses intéressantes, et puis comportant une bonne possibilité de progression dramatique. Donc c'était ça. Il lisait des romans policiers, ou même simplement des résumés qu'on lui faisait aussi, que le studio lui faisait. Dans tous les studios américains, il y a des choses comme ça. Et alors, d'après ce qu'on lui faisait lire, là, il disait oui, ça peut travailler ou ça ne travaillera pas. C'était ça l'expression. Et je pense qu'il avait un bon sens de ça. C'est dans Notorious, le jeu de Cary Grant consiste à faire semblant de conduire la voiture. Il y a un petit ventilateur, c'est une voiture décapotable, donc il y a un petit ventilateur qui met de l'air dans les cheveux d'Ingrid Bergman, et puis c'est tout. Mais comme au fond du cadre, dans la transparence, c'est-à-dire dans le film qui passe derrière eux, parce qu'ils sont au fond devant un écran de cinéma, mais qui est au studio, sur cet écran, on voit s'approcher un motard qui va arriver et qui va peut-être leur coller une contravention. Comme le motard avance, évidemment, et qu'il a un phare à sa moto, Hitchcock dit, il me semble qu'il faudrait, pour la réalité, sentir un petit peu de lumière dans les cheveux d'Ingrid. Et donc, il demande à l'opérateur de rajouter un petit spot hein, qui, à un certain moment, donnera des reflets de lumière dans les cheveux d'Ingrid Bergman et qui donnera l'impression d'être la lumière du motard qui approche et qui sort du cadre. Puisqu'après, dans l'autre cadre, il entrera, mais là, vraiment, cette fois-ci. Alors qu'avant, il était séparé, il était en réalité sur un écran de cinéma. C'est une idée absolument juste de la part d'Hitchcock, c'est-à-dire que plus on triche, plus il faut se donner du mal pour faire vrai.
How do you do? I'm Alfred Hitchcock, and I want you to know about my latest motion picture, which will be coming soon to this theater. It is called The Birds, and for that reason we thought it would be appropriate if a bird informed you about the details. Go ahead. Alfred Hitchcock's The Birds. Alfred Hitchcock's The Bird stars Rudd. On second thought, perhaps it would be more appropriate if I gave you the details. Alfred Hitchcock's The Bird stars Rod Taylor, Jessica Tandy, and Suzanne Plachet, and introduces Miss Tippi Hedren.
Bruno Villien.
Le film Les Oiseaux repose sur une histoire d'amour contrariée, puisque c'est l'histoire d'une jeune et riche femme type Piedren qui veut à toute force s'emparer d'un journaliste qu'elle convoite exactement. Et Hitchcock fait un parallèle entre cette histoire d'amour à sens unique et la manière dont les hommes, l'espèce humaine plus exactement, s'est conduite avec les oiseaux depuis toujours. Alors il y a des sortes de parallèles qui sont très drôles et d'autres qui sont très cruels parce que les oiseaux font subir un sort affreux à Tippi Hedren puisqu'elle se trouve prisonnière d'un grenier où les oiseaux essayent de la mettre en charpie. Et le plus extraordinaire étant que le tournage même a provoqué presque le même traumatisme que celui qu'on voit dans le film.
Document Antenne 2, Cinéma, interview de Tippi Hedren.
Mais en fait, oui, je crois vraiment que la scène finale a été la raison pour laquelle il a choisi une inconnue pour faire le film. Parce que je pense que n'importe quelle autre actrice aurait demandé énormément d'argent. Mais en même temps, j'ai toujours eu l'impression qu'on allait utiliser des oiseaux mécaniques pour cette scène. Et ce n'est que le matin du début du tournage de cette scène qu'on m'a dit, que l'assistant réalisateur Jim Brown m'a dit que les oiseaux mécaniques ne marchaient pas et qu'on utiliserait des oiseaux vivants. Et évidemment, j'étais morte de peur parce que j'avais vu tous ces dresseurs d'oiseaux avec des énormes gants de cuir et toutes les cicatrices et les griffes qu'on avait reçues des oiseaux. Et vous vous rappelez très bien comment ça a été tourné, ou parfaitement, je m'en souviens très clairement. Il y avait un décor, c'était une porte, et il y avait un grillage, et il y avait un plafond. En grillage. Et à l'intérieur de cette cage, il y avait 5 accessoires qui portaient des très grands cartons. Et ces cartons étaient pleins de corneilles et de corbeaux et de mouettes, tous les oiseaux qu'on avait déjà utilisés dans le film. Et ces dresseurs avaient des gants en cuir énorme jusqu'au coude. Et les uns après les autres, ils me jetaient ces oiseaux pendant 5 jours. Alors au début, bon, ça allait. J'avais eu affaire déjà aux oiseaux pendant assez longtemps. Et bien sûr, il y en avait même un ou deux qui étaient des amis à moi, mais parmi les oiseaux, il y en avait vraiment des très méchants. Et au fur et à mesure que la semaine passait, je crois bien que ça a pris toute la semaine pour faire une section du film qui durait 2 minutes sur l'écran. C'était épuisant. Et pas seulement physiquement, c'était affectivement épuisant. En fait, Hitchcock sentait que c'était tellement brutal qu'il ne sortait même pas de son bureau, il n'entrait dans le studio que quand on était prêt à tourner. Vous croyez qu'il se sentait coupable? Oui, je crois vraiment que c'est ça.
Et qui fait partie des 5 films qui vont ressortir à ce site spécial qu'il est construit sur un pari technique qui est de comporter le moins de plans possible. D'habitude, un film comporte entre 350 et 500 plans. Enfin, des metteurs en scène qui font des plans très courts arrivent jusqu'à 800 plans. Mais enfin, le chargeur d'une caméra contient 10 minutes de film. Et dans la corde, Hitchcock s'est amusé à faire 10 plans, c'est-à-dire 10 fois 10 minutes. Donc les acteurs ont été obligés de jouer en continuité, comme au théâtre, mais avec des places très strictes marquées par terre, et des places qu'ils doivent prendre, occuper sans les regarder, c'est-à-dire sans baisser les yeux sur le sol. Et la caméra bouge sans arrêt, eux bougent sans arrêt, ce qui fait que pour le spectateur, il a l'impression d'avoir autant d'images que dans un film qui serait complètement découpé. Mais en réalité, il n'y a que 10 plans dans le film. Ça a été une expérience unique passionnante, vraiment, qu'il a pu faire, qu'il a pu réussir aussi grâce à la qualité des acteurs. C'est-à-dire, une chose comme ça ne peut être faite qu'avec des acteurs de théâtre, c'est-à-dire qu'ils sont entraînés déjà à jouer en continuité. Et James Stewart était le principal d'entre eux. Et c'est un film d'ailleurs qui a suscité beaucoup de polémiques à l'époque. Je me souviens que dans les journaux comme L'Écran français, on donnait la parole aux metteurs en scène, les metteurs en scène français qui étaient pour ou contre, enfin, etc. Et le film avait assez bien marché, mais sans plus. Enfin, c'était donc tiré d'une pièce, ce qui était naturel. Mais enfin, c'était un grand raffinement puisque le décor était, l'histoire était, se passait également en continuité. C'était des gens qui étaient invités à une partie chez quelqu'un à Manhattan à 7h du soir. Et l'histoire finit à 9h du soir, c'est-à-dire qu'entre-temps, la nuit tombe. Et on voyait donc par la fenêtre, peu à peu, le ciel s'assombrir. Il y avait des nuages dont Hitchcock nous explique qu'ils étaient en verre filé et qui bougeaient. Les nuages se déplaçaient, c'est-à-dire que lorsque la caméra n'était pas sur la fenêtre, hop, les machinistes bougeaient légèrement les nuages. Et si bien que l'histoire finit en pleine nuit.
Stupid babbling drunk. I'm sorry, Rupert. All right. Really want to kill you? Don't mess. Not at that range. Of course he didn't want to kill you. He didn't know what he was doing any more than he knew what he was saying.
Dans la corde, je n'avais jamais oublié le bruit. Tout le film se passe dans une seule pièce, dans une sorte de studio très luxueux, vitré, avec une baie vitrée. Mais à la fin du film, un meurtre ayant été commis, James Stewart, très indigné, ouvre une fenêtre de cette baie vitrée et tire un coup de revolver dans la rue, comme pour alarmer vraiment les gens. Et puis, de très loin, on entend une voiture de police qui arrive. Et c'est vrai que c'est assez rare au cinéma de sentir le relief du son. Et cette fois-ci, on a cette sirène de police qui réellement s'approche. Et aussi, on entend des gens qui commencent à s'assembler dans la rue. Et je lui ai dit, dans un livre, on dirait des rumeurs montées de la rue. Et bien là, dans le film, réellement, l'idée de monter est bien transcrite. C'est-à-dire qu'on entend ces rumeurs monter. Et il m'a dit oui, qu'il avait justement donné des instructions très précises pour cette scène, que l'ambulance, il l'avait fait partir d'un kilomètre et demi du studio et qu'il avait enregistré donc tout le long du trajet, alors que d'habitude, l'ingénieur du son dira volontiers dans un studio, il dira « Oh, moi, l'ambulance, je vais au potentiomètre, je vous la commence très bas et puis je la monte au fur et à mesure. » Mais ça n'est pas pareil parce qu'il n'y a plus l'effet de relief du son à ce moment-là. C'est un son qui est petit et qui devient grand, c'est pas du tout un son qui était loin et qui devient près. Alors, c'est dans ces choses-là, oui, où il était d'un très grand raffinement, sur tous les plans, oui, sur tous les plans, il était d'un très grand raffinement.
Hitchcock prêtait une très grande attention à la bande-son, donc, et travaillait souvent plusieurs mois à sa composition, alors que le tournage, généralement, ne prenait que quelques semaines. Voxman, Tiomkin, Rossa ont travaillé pour Hitchcock, mais souvent de façon assez conventionnelle. C'est en fait avec Bernard Herrmann que la collaboration sera la plus créative, Claude Rockle.
C'est en 1955 que Herrmann rencontre Hitchcock. Et la rencontre s'est faite presque dans le cadre là de l'anonymat des grands studios hollywoodiens. Mais si Hitchcock ne savait pas vers qui il allait, lui, Herrmann savait parfaitement vers quel cinéaste il allait. Et il avait tout à fait envie de travailler, bien sûr, avec Hitchcock. Il avait regardé, il connaissait ses films, il connaissait presque, enfin, pas dire par cœur, mais enfin, ça faisait partie de sa bible cinématographique. Et Herrmann avait repéré depuis longtemps que Hitchcock avait les mêmes soucis, les mêmes motivations, d'une manière picturale, que lui, dans son territoire musical. Et on sait que bon, bah, tous les films d'Hitchcock comportent une grande dose de morbide, d'humour noir, etc., ce qui fait que l'univers d'Herman est exactement celui-là et que la collaboration semblait programmée à l'avant. Je veux dire, il fallait que ces deux musiciens puissent se rencontrer. Ça paraît tellement évident de le dire maintenant qu'on ne peut pas imaginer un film d'Hitchcock pour qui Herman refait la musique remonter avec une musique actuelle d'un autre compositeur. Ça tiendrait pas du tout la route. Et alors, je crois que ce qui est important de dire, c'est que Herman avait donc parfaitement appréhendé le propos de Hitchcock. Là où les autres compositeurs faisaient une musique souvent pléonasme, bornaient à souligner l'entrée des personnages, la sortie pour, disons, agrémenter un décor, Herman ne fait pas du tout la même chose. Il anticipe souvent sur le récit, il prolonge la psychologie des personnages, et il participe peu à peu à cette espèce d'élaboration de la psychologie secrète du film, qui est un petit peu un conglomérat de la psychologie de tous les personnages. Mais il considère que le film est un seul personnage, qui est donc cette espèce d'amalgame de tous les autres, et il en fait l'espèce de musique. C'est un peu une musique d'ombre qui intervient dans les films d'Hitchcock, un petit peu à la manière, je sais pas, dont l'ombre intervient dans les tableaux de Quirico, c'est-à-dire qu'elle est présente, elle est là, elle fait partie du récit, et en même temps elle est extrêmement sournoise, extrêmement inquiétante, on ne sait pas trop trop bien qu'est-ce qui va en sortir, et finalement elle n'a aucun rapport direct sur l'action. Herman s'est caractérisé par un style qui est toujours la recherche d'une polyphonie avec des interventions de stridence, l'utilisation de percussions, qui évidemment a un côté ponctuel dans les films de Hitchcock, mais au-delà de ces quelques repères qui sont inévitables dans un film, toute son œuvre participe beaucoup plus d'un recul et d'une investissure du film de tout un background gothique qui fait référence au roman noir, mais au roman noir au sens anglais du siècle dernier, et qui finalement tisse tout un tissu de référence qui n'est pas du tout attendu, qui n'est pas du tout en vogue, en tous les cas, à Hollywood à l'époque. Là aussi, Herman, pour les films d'Hitchcock, comme pour d'ailleurs d'autres metteurs en scène, Herman, par son désir d'indépendance, refuse complètement le schéma traditionnel hollywoodien qui consiste à reprendre l'orchestre symphonique tel quel et l'utiliser sans, disons, augmenter aucun groupe d'instruments, mais préfère disloquer complètement la formule symphonique traditionnelle et utiliser soit les cordes d'une manière prépondérante, soit les percussions, soit tous les instruments qui vont se ramifier au climat onirique, comme par exemple l'orgue ou la harpe. Il fera une énorme utilisation des harpes. Et je crois que cette manière d'utiliser les instruments et les groupes d'instruments en dehors de ce qui avait été repéré et traditionnellement utilisé fait partie vraiment de ce que Herman aura pu apporter de plus fort au cinéma. Rapport extrêmement intéressant entre Hitchcock et Herman sur la discussion qui précède le film. Et Hitchcock a revu certains plans et certaines, disons, séquences uniquement en fonction des indications que Herman lui donnait sur la musique. Et ça, c'est un, disons, un cas suffisamment rare dans toute l'histoire de la musique du cinéma pour être souligné. Par exemple, la fameuse scène de Psychose, pour ne citer qu'une des plus célèbres, a été complètement élaborée sur les conseils de Herman. Enfin, je ne dis pas sur les conseils, mais enfin, disons sur d'un commun accord entre Herman et Hitchcock, avec cette espèce d'accélération dans les stridences qui aboutit jusqu'à la stridence ultime qui correspond au crime. Dans Vertigo, l'idée de faire une partition qui soit complètement cyclique et qui corresponde donc à tout le vertige que le film, en fait, c'est peut-être l'histoire du vertige, c'est peut-être ça. Et la volonté donc d'Herman dès le départ d'appréhender le film comme étant cette tentative vers le vertige relève d'une démarche que aucun compositeur hollywoodien n'avait à l'époque. Il y a eu 8 films qui ont été faits, disons, en collaboration avec Herman Hitchcock. Il est évident que ces 8 films ont une patte qu'il est impossible d'ignorer, d'oublier, de concevoir autrement. Mais faut dire quand même que Hitchcock était toujours soucieux de l'apport musical sur ses films, bien avant même d'avoir rencontré Herman, mais peut-être pas d'une manière... disons que je pense qu'Herman lui a ouvert des ouvertures sur les possibilités de faire passer... disons un discours autre, de mêler un discours autre dans ses films à celui qu'il avait avant. Il y a un certain nombre d'exemples de films qui ont été tournés avant cette collaboration où Hitchcock a néanmoins utilisé la musique, mais d'une manière plus anecdotique. Disons, je pense notamment, je ne sais plus, je crois que c'est dans Agent Secret, à cette scène assez étonnante où on entend l'orgue dans un paysage de montagne, on se demande qu'est-ce qui se passe, et au fur et à mesure que les personnages, on suit les personnages approchent, rentrent dans un petit village, on entend toujours cette tenue d'orgue qui ne bouge pas, et les personnages arrivent devant une église, rentrent dans l'église, traversent toute l'église, on se demande toujours pourquoi on entend cet orgue, et on finit par voir l'organiste affalé sur l'orgue avec un couteau planté dans le dos. Et c'était déjà une manière d'utiliser, de scénariser la musique, mais bon, d'une manière un peu plus anecdotique. Je crois que Herman a apporté, disons, une manière tout à fait différente de voir, de revoir le film, presque pour Hitchcock, en lui proposant une espèce de trame qui est quelque chose qui n'est peut-être pas toujours d'ailleurs complètement prémédité entre Hitchcock et lui, mais qui se trouve être la psychologie réelle du film. C'est vraiment la musique du film. C'est son identité, en quelque sorte. Collaboration de Herman et de Hitchcock se situe avec le rideau déchiré, ce qui s'est fait avec à l'issue d'une grande colère, que tous les deux étaient un petit peu des tempéraments très emportés, très, très coléreux. Bon, on connaît pas bien les raisons de cette brouille. Toujours est-il qu'on sait que Herman avait écrit la partition entièrement pour le rideau déchiré et que c'est une musique de John Addison qui a été utilisée pour le film. Bon. Herman, après ça, est tombé dans un oubli complet. Je veux dire qu'il était, c'était quelqu'un d'aigri, d'un petit peu, qui regrettait quand même de s'être inféodé au cinéma. Alors donc, après cette collaboration avec Hitchcock. Après cette brouille, Herman est tombé dans une espèce de disgrâce, c'est-à-dire que lui ne trouvait plus d'une part du sujet qui le fascinait, les metteurs en scène étaient suffisamment ignorants de la chose musicale pour savoir qu'un Bernard Herman existait quelque part et n'avait en tout cas pas envie de s'encombrer de quelqu'un qui était extrêmement méticuleux. Je veux dire que pour les films sur lesquels il a travaillé, il refusait d'abandonner quoi que ce soit à quiconque, c'est-à-dire qu'il était jusqu'au bout, il était à la fois le compositeur, le chef d'orchestre, le preneur de son, le monteur, il contrôlait sa musique jusqu'au bout. Et il était bien évident que c'était complètement à l'encontre de ce que souhaitaient les grandes compagnies hollywoodiennes, qui n'avaient que le seul souci de la rentabilité. Donc il est tombé dans une espèce de disgrâce, et puis c'est les cinéphiles qui l'ont par la suite ressorti, disons, de cet oubli, notamment des gens comme Truffaut, qui évidemment ont voulu recréer cette espèce de magie extraordinaire, une collaboration privilégiée qu'il y a eu entre Hitchcock et Herman. Ce qui fait qu'Herman a été amené à collaborer donc par la suite, d'une manière plus ou moins convaincante d'ailleurs, avec des metteurs en scène importants. Et c'est curieux de constater que ce sont surtout donc de jeunes metteurs en scène qui ont eu cette volonté de travailler avec lui. Notamment donc Truffaut, Brian De Palma, qui se considère un petit peu comme le fils spirituel de Hitchcock. Et puis, tout récemment, avec Martin Scorsese, puisque c'est lui qui a fait la musique de Taxi Driver. C'est d'ailleurs sa dernière partition, puisqu'il est mort en 1975.
Thank you.
Pascal Bonitzer, François Truffaut, Jean Doucet, Bruno Villien, Odette Ferry, Claude Rocle. Pour ce catalogue Hitchcock numéro 4, son et images, les techniques hitchcockiennes. Demain, suite et fin de Hitchcock avec les films malades d'Alfred Hitchcock.